L'art du théâtre par Sarah Bernard. Troisième partie. Impression, jugement, souvenir.
Suite et fin. Lue par Christiane Johan pour audiocité.net.
Quelques conseils. J'ai bien longuement parlé de moi, de mon goût pour la poésie, pour certains caractères dramatiques et des raisons qui m'ont fait chérir par-dessus tout certains rôles d'hommes pour lesquels j'estime nécessaire une interprétation féminine. Si j'ai parlé aussi des différents contacts que j'ai eus avec les publics les plus divers, ce n'est pas pour mentionner mes succès et m'étendre avec complaisance sur ce sujet, mais pour montrer qu'avec la volonté d'avoir l'affection de cette masse venue vers l'art et la beauté idéale, on s'attache le public le plus prévenu, de quelque pays qu'il soit, on fait battre son cœur, on retient sa pensée. Mais là encore, je crois que la femme a plus beau jeu que l'homme. Elle vient à bout plus facilement de toute résistance boudeuse ou haineuse. Elle fait fondre les glaces les plus dures de la mauvaise humeur et du parti pris. Je répète d'ailleurs que dans notre art, la femme est le plus facilement supérieure. Et cela se conçoit car le désir de plaire, le soin de farder son visage, de composer sa personne, sont qualités et défauts appartenant plus à la nature de la femme qu'à celle de l'homme. Puis la femme est, par la grâce de ses formes, l'astuce de son caractère, un être 10 fois plus perfectible que l'homme. Prenez dans le peuple un jeune homme et une jeune fille. Donnez à ces deux êtres l'éducation affinante convenant à leur sexe, l'éducation d'élégance mondaine, vous ferez du garçon un lourdeau maladroit et de la fillette une exquise jeune fille pouvant se présenter partout sans étonner personne. La femme s'assimile les grâces hautaines ou plaintives, la distinction, le « comme il faut » ou la race, et cela avec une facilité surprenante. Je sais une comédienne, fille d'ouvreuse, qui passa pour une femme de distinction parfaite. Et la vérité est que si elle n'est pas tout à fait distinguée, elle est tout à fait « comme il faut ». Les hommes, au contraire, ne prennent que très lentement l'aisance mondaine. D'aucuns n'y parviennent jamais. On peut faire, en quelques années, une adorable duchesse d'un trottin parisien. On ne pourra jamais faire un duc d'un maraud ou d'un bourgeois. Une des causes aussi de l'infériorité des hommes dans notre art, c'est qu'il est nécessaire de se vouer très jeune au théâtre. À 15 ans, une jeune fille a fini ses études, à moins qu'elle ne veuille les pousser jusqu'au baccalauréat. Et ce n'est que vers 18 ans qu'un garçon achève généralement les siennes. Une fillette de 15 ans a l'esprit suffisamment éveillé pour s'initier aux choses de la vie sans avoir pris contact avec elle. Un garçon, tout au contraire, reste timide, gauche et brutal. Un homme ne peut avoir l'air d'un homme au théâtre qu'à partir de 20 ou 22 ans. Avant cet âge, il ressemble aux jeunes chiens qui ont les pattes trop grosses et maladroites. Il en est de même pour leur voix. Elle mue fort tard et très longtemps, tandis que la jeune fille a sa voix faite à 15 ans. Aussi la carrière des comédiens est-elle plus courte que celle des comédiennes. On m'a demandé bien souvent combien d'heures je travaillais par jour. Je n'ai jamais travaillé un rôle. Je travaille le mécanisme. Je l'apprends par cœur, mot à mot. Je mâche, je tuture les phrases, de manière à en être absolument maîtresse dans la rapidité du dialogue. Mais une fois que je sais parfaitement mon texte, que je le tiens par l'articulation, je ne m'en occupe plus. Tout ce que je dois donner dans la douleur, la passion ou la joie, je le trouve à la répétition dans l'action même de la pièce. On ne doit pas chercher une pause, un cri, rien. On doit tout trouver là, en scène, pendant l'effervescence du travail général. Les artistes qui se plantent devant une glace pour chercher un plastique ou qui essaient sur un tapis de leur chambre la chute du corps sont des fous. Ils ne trouvent rien, rien, rien. Tout doit être suggestionné par la pensée. Toute action du comédien sur la scène doit être le résultat visible de sa pensée. Sans doute est-il quelques détails qu'il importe de connaître, quelques manières de se tenir, de marcher, de retenir son souffle. Mais ces soucis ne doivent pas se connaître en scène. Ils doivent disparaître dans le jeu de l'acteur convaincu qu'il est Hamlet ou Thésée. Il doit penser comme ses personnages. Le jeune artiste s'exprimera par le fait de son vouloir. Il ne devra penser qu'à penser. Il est une chose dont on ne se préoccupe pas assez dans nos classes de déclamation. C'est de l'action. Je crois que beaucoup de nos éducateurs ont lu Héros de Séchelles. et confondent, comme lui, action et déclamation. Je m'inscris en faux contre un tel outrage à la vérité. La déclamation est l'art de dire, de déclamer avec justesse, tendresse ou violence, de beaux vers ou même de belles harangues d'orateurs. Mais cela n'a rien à voir avec l'action qui, elle, peut être toute de mimique et rester l'action. On peut jouer avec une pantomime dramatique comme Pierrot assassin de Jean Richepin, émotionné comme l'enfant prodigue de Michel Carré, ou terrible comme la main. Il n'y a pas l'ombre de déclamation dans ces manifestations artistiques. L'action seule y joue son rôle, et c'est l'action qui seule éveille l'émotion ou la terreur du public. La déclamation et l'action peuvent se passer l'une de l'autre. Quand elles se réunissent, c'est tant mieux pour le public. Mais le comédien ne doit jamais oublier que c'est l'action qui est la suprême maîtresse. Et cela, nos élèves ne s'en doutent pas. Ils pensent à l'inflexion, à l'effet, jamais à l'action. Ceci n'est vraiment pas leur faute. Le premier soin d'un professeur doit être d'apprendre à son élève l'articulation, la respiration, la science de dire les vers. Puis, quand l'élève sait bien tout cela, il doit le forcer à penser, et c'est par ce penser qu'il tombera dans l'action. Il m'est arrivé à moi-même un soir, à la Comédie-Française, en jouant Gabriel, de ne plus trouver les vers que j'avais à dire à propos de l'influence du printemps. Le souffleur dormait profondément, je remplaçais ces quatre vers par une pantomime tellement affolée et énamourée que la salle entière applaudit dans deux salves répétées. À ma sortie de scène, Madeleine Brohan s'écria « Tu sais, Sarah, que c'est bien mieux comme ça ?» Il est vrai de dire que c'était des vers d'Émile Augier. Hippolyte Clairon, qui fut une grande artiste de l'an 1700, prétendait qu'il fallait changer de ton à chaque instant. Ceci est une pure folie, et c'est le plus mauvais conseil à donner aux jeunes comédiens. Il n'y a pas à se préoccuper de sa voix quand on est dans une action quelconque. Les modulations se feront au cours du dialogue ou du monologue, de même qu'il serait inutile de chercher à faire agir tel ou tel muscle du visage pour exprimer les sensations diverses de la pensée, l'expression de la face se modifiera dans le cours du soliloque. En vérité, je le dis, je l'affirme, on ne doit songer à rien lorsque le rideau est levé. Tout ce qu'il a appris et retenu viendra au secours de l'artiste sans qu'il s'en doute, et la succession des répétitions d'une pièce donne aux bras et aux jambes une habitude suffisante pour passer de droite à gauche, entrer par le fond, par le côté, s'asseoir sur le canapé, sur la table, sur le pouf, s'étendre sur la chaise longue, sans que l'esprit y porte la moindre attention. Une fois le rideau levé, le comédien ne s'appartient plus. Il appartient à son personnage, à son auteur, à son public. Il doit faire l'impossible pour s'identifier avec le premier, pour ne pas trahir le second et ne pas désappointer le troisième. Et pour cela, l'artiste doit oublier sa personnalité, rejeter au loin ses chagrins et ses joies. Il doit donner au public la réalité d'un être qui pour lui n'est que fiction. Il doit, avec ses propres yeux, verser les larmes de l'autre. Il doit, avec sa propre voix, hurler les douleurs de l'autre. Son cœur, à lui, bat à tout rompre, car c'est le cœur de l'autre qui bat dans son cœur. Et quand il sort d'une scène tragique ou dramatique, l'artiste, s'il a rendu son personnage, doit être haletant, éreinté. Le lecteur dira que la vie d'un artiste l'épuiserait vite à cette fatigue physique et morale renouvelée des soirs et des soirs. C'est une erreur. La douleur et le rire deviennent gymnastiques des glandes lacrymales ou du rire Zorius de Santorini, qui prennent l'habitude d'obéir, ainsi que les membres prennent l'habitude de dépasser la force normale des hommes par l'exercice. La fatigue réelle n'est pas celle du corps, mais celle du cerveau qui fait une dépense de volonté effroyable. Pour remédier à ce véritable danger, il faut réparer ses forces par le sommeil. Un artiste dramatique doit dormir, beaucoup, au moins 8 heures par jour. Le sommeil est indispensable au repos de notre cerveau et nécessaire pour nos cordes vocales. Car toute action porte sur les cordes vocales, la marche, la lecture, la digestion, le bain, le cheval, la natation, le vent. Quant au sport, ils sont tous nuisibles à la beauté de la voix, mais le plus nuisible de tous, c'est le canotage. Il vient à bout des voix les plus solides. Je pourrais vous citer 10 de nos jeunes acteurs qui ont la voix brisée par l'amour de la rame. On dit que Démosthène se promenait le long des grèves avec des cailloux dans la bouche et s'exerçait ainsi à la prononciation pour atténuer son fâcheux bégaiement. Eh bien, je pense que s'il est parvenu à se rendre maître de son articulation, il a dû se briser la voix, car les cordes vocales ne résistent pas au soufflet du plein air. Ah, la vie du comédien n'est pas toujours enviable, mais quelle médaille n'a pas son revers, quel art n'a pas son désobligeant halte-là. Ce sont là difficultés surmontables et que la volonté patiente dissipe peu à peu au travers des lueurs de la foi et de l'intelligence. Les joies que l'art dispense avec largesse, lorsque les efforts persévérants ont fini par vaincre les obstacles de la route grâce à une discipline constante, compensent au centuple les petites joies que cette même discipline interdit. Il faut simplement être sûr de la route choisie, et lorsque le choix est bien fait, la parcourir jusqu'au bout. Et c'est bien là encore la pensée clairvoyante qui rendra les services les plus éminents. Influence du théâtre. L'état de comédien est bien souvent décrié et méprisé. La foule vient au théâtre, mais considère peu ses protagonistes, bien qu'elles finissent par établir une gloire parfois éclatante aux meilleurs d'entre eux. Les moralistes, et particulièrement les moralistes religieux, voûtent gémonie les acteurs en général et considèrent le théâtre comme un lieu de perdition. Ainsi, dans la plupart des villes d'Amérique, où je donnais des représentations au cours de ma tournée, les évêques lançaient en chair des foudres destinées à nous réduire en cendres, mes camarades et moi. C'est à propos d'une semblable prédication que mon manager, M. Henri Habay, écrivit à l'évêque de Chicago la lettre suivante. « Monseigneur, j'ai l'habitude, quand je viens dans votre ville, de dépenser pour la publicité $400. Mais comme vous l'avez faite pour moi, je vous envoie $200 pour vos pauvres. Henri Habay. » Je laisserai de côté les fureurs trop puritaines qui ne voient dans le théâtre qu'une invitation à la débauche et dans les acteurs que des individus de mœurs dissolues. Et je ne relèverai pas ce que cette conception a d'odieux. Je voudrais simplement montrer que l'influence du théâtre est loin d'être nuisible. Il me semble au contraire que cet art particulièrement vivant, poétique et évocateur est non seulement un plaisir délicat et joyeux, mais un enseignement vivace et concluant. Sans doute, tous les spectateurs n'éprouvent pas de la même manière le plaisir de cet enseignement. C'est que le public est formé d'éléments hétérogènes. Il y a les intellectuels, les sceptiques, les naïfs, les grossiers et les impersonnels, mais tous y trouvent dans ce plaisir un enseignement certain. Dès le début d'une œuvre, les intellectuels se plaisent à démêler l'idée de l'auteur, à rechercher le côté philosophique de la pièce. Ils essaient de deviner l'état d'âme des personnages qui évoluent devant eux. Ils devancent la marche de la pièce et arrivent au dénouement avec l'auteur. Cependant, parfois, l'œuvre tourne et l'intellectuel se révolte devant une solution vers laquelle sa logique ne l'avait pas conduit. Les naïfs croient que c'est arrivé et s'ils n'y goûtent pas la philosophie de l'ouvrage, ils en ressentent les commotions et se jurent d'éviter les cas qui les mettront en semblable situation. Les grossiers ne voient que le fait brutal, ne comprennent pas le pourquoi, ne devinent pas le parce que, ne raisonnent pas la conclusion. Mais le fait qui les a frappés, et de même que le coup de poing laisse une marque, ils garderont le souvenir du fait et en tireront un enseignement à la hauteur de leur esprit. Tout est relatif. Quant aux impersonnels, la foule, monstre hideux, hydre à 1000 têtes, 2000 bras, 2000 jambes, le cœur, le cerveau empruntés à celui qui le mène, tant mieux si celui-ci est noble, tant pis si c'est une brute, la foule le suit. Intelligente ou stupide, féroce ou débonnaire, elle ne puisera que l'enseignement indiqué par son meneur. Mais qu'importe, elle est le nombre, elle ne donne pas d'importance à la valeur artistique, mais elle est essentiellement influençable et, quel qu'il soit, subira le bienfait de l'enseignement théâtral. Celui-ci est d'un intérêt puissant, qu'il s'agisse de drames historiques ou philosophiques. Voyez le plaisir extrême qu'on peut prendre à une pièce qui met en scène tels ou tels personnages historiques dont vous apprenez à connaître les actes de la vie. Vous les voyez évoluer, vivre, penser. Ce n'est plus la froide histoire qui mentionne seulement les faits extérieurs accomplis par les héros. Ceci vous échappe. Ce sont des mannequins dont les actes semblent peu explicables ou sans intérêt. mais que le dramaturge vous éclaire avec les lumières de psychologie propres à chaque personnage, et sans y prendre garde, vous vous passionnez peu à peu. Et l'enseignement porte son fruit. Vous voici connaissant les événements et les motifs des événements de toute une période historique qui autrefois gisait dans les oubliettes de vos souvenirs. Ainsi le théâtre, l'art dramatique, se révèle comme le complément de l'histoire et de la philosophie. Il développe l'amour du beau et du bien. Leurs adeptes gardent le feu sacré de l'art, l'art qui, sous toutes ses manifestations, est la plus belle création de l'esprit humain. Sans l'art, que serait la vie ? La science prolonge la vie. Que serait celle-ci ? Manger, boire, dormir ? À quoi bon vivre plus longtemps s'il s'agit seulement de satisfaire aux obligations qui entretiennent la vie ? Sans le charme de l'art, tout cela n'est rien. Et de tous les arts, celui du théâtre est le plus complet. Il utilise tous les autres. De même que toute âme éprouve le besoin de prier, de même tout esprit a besoin d'évoquer des rêves, des légendes, des disparus. Il faut remonter bien loin dans l'Antiquité pour retrouver les premiers vestiges du théâtre. Et même dans les peuplades sauvages, l'évocation est un besoin. J'ai assisté à une fête donnée en mon honneur par des sauvages iroquois. Rien de plus évocateur que cette danse guerrière avec cris, rugissements, rires de vainqueurs, sanglots, râles des vaincus, mimiques de tuerie, d'enfouissement, le tout accompagné d'une musique effroyable, lugubre, stridente. Tous ceux qui assistaient avec moi à cette fête sauvage ont eu la vision d'une rencontre entre Blancs et Iroquois, dans laquelle, bien entendu, les Blancs étaient vaincus, massacrés, torturés et finalement mangés. Eh bien, cette mimique sauvage avait une telle puissance, il y avait une telle haine dans la macabre danse de ces misérables, une telle évocation du passé si proche, un tel assouvissement de rancune féroce dans le regard torve ou sournois de cette bande, que la pitié qu'il m'inspirait s'est changée en une appréciation plus nette et plus loyale. Pour tout haïr, ils avaient dû tant souffrir, et ce que je savais de la guerre effroyable faite contre eux, des pirateries, des vexations, des serments violés par leurs vainqueurs, tout cela se dressait devant moi, et la revendication de leur haine me sembla de la justice. Moi aussi, j'ai puisé un enseignement dans la manifestation cependant bien grossière de ces malheureux. De tout temps, le théâtre fut un enseignement, et même un terrain de mouvement révolutionnaire, artistique. Le théâtre est le porte-voix le plus direct des idées nouvelles philosophiques, sociales, religieuses et morales. Ce siècle, qui semble devoir être l'ère des libertés, nous apportera sans doute bien des surprises, et c'est par le théâtre qu'elles nous seront d'abord présentées. Il ne faut pas, a dit Victor Hugo, que la foule sorte du théâtre sans emporter avec elle quelque moralité austère et profonde. Cette pensée fut celle de tous les idéologues, à quelques exceptions près. Jean-Jacques Rousseau n'aimait pas le théâtre, paraît-il. Mais Jean-Jacques était un philosophe qui, après avoir adoré la poésie et la littérature dramatique, se démentit plus tard sous l'influence de Diderot, esprit froid et méthodique. Le théâtre est un besoin de toutes les nations, de tous les peuples, de tous les êtres. Il faut aimer le théâtre. Tous les peuples jeunes et vigoureux l'aiment. Voyez la jeune Amérique, elle adore le théâtre, et elle est adorée par lui. Tous les artistes célèbres, littérateurs ou interprètes, tous voguent vers ce pays de liberté, de beauté et de vie. Il est vrai que les vieux sédentaires, les bureaucrates, les malades et les peureux nous accusent de n'aller là-bas que par amour des dollars, et de convoiter plus d'or que de laurier. Ils se trompent. Les Américains ne jettent pas de poignées d'or aux étoiles littéraires, musicales ou dramatiques, mais ils aiment le théâtre. Ils sont la jeunesse, l'entrain, la force d'un sang nouveau. Ils n'hésitent pas à courir vers une émotion nouvelle, et ne commencent pas par peser le pour et le contre. Ils vont d'abord, jugent ensuite. Ils reviennent toujours, ou ne reviennent jamais, selon qu'on les a charmés ou déçus. Il n'en est pas de même avec les races latines. Leur amour du théâtre est moins ardent et surtout beaucoup plus superficiel. En France, où naissent toutes les idées nouvelles, celles-ci ont du mal à être adoptées. Il faut qu'elles commencent à fleurir en pays étranger. Le public n'aime pas à se donner du mal pour comprendre. Son attention se lasse facilement. Le théâtre nouveau de ces dernières années a peut-être abusé de cette patience un peu frêle de notre public si bon enfant. Cependant, la vertu du théâtre est précisément d'inviter le public à penser, à comprendre et à tirer de ce qui se passe sur la scène autre chose qu'un vulgaire plaisir visuel. Ceux qui écrivent pour le théâtre ne devraient jamais perdre de vue ceci. Ils doivent faire en sorte que la foule tire d'elle-même la moralité austère et profonde dont parle Victor Hugo. Ils ont donc à fournir à cette foule la matière d'où naîtra la moralité, mais de telle manière que la conclusion soit amenée sans obscurité et sans difficulté, et toujours avec les moyens que réclame impérieusement le théâtre sous peine de rester vain et incompris. Le théâtre de ces dernières années n'a pas toujours été clair, net, enseignant et théâtral, mais il s'est épuré et de grandes figures et de grandes œuvres ont surgi qui répondaient aux nécessités de l'éducation intellectuelle de la masse. On peut diviser cette production en trois branches, le théâtre réaliste, le théâtre réaliste idéaliste et le théâtre religieux. Je pense particulièrement aux œuvres de Brieux pour le théâtre réaliste idéaliste. Ce sont des œuvres de force et de pensée. Brieux nous a donné les bienfaiteurs, Blanchette, la foi, la robe rouge, maternité, les remplaçantes, etc. Ce sont là des chefs-d'œuvre de théâtre réaliste, courageux, probe et lumineux. La société y est flagellée violemment, les tares de l'hypocrisie sociale y sont mises à nu, une conception magnifique de l'humanité y est étudiée, et rien de ces thèses philosophiques, morales ou sociales ne nuit à l'action prenante de l'intrigue. C'est du vrai théâtre, et Brieux est un admirable apôtre. L'apostolat de M. de Curel est moins direct, plus intellectuel. Son œuvre est cependant d'une beauté sans égale. Le drame La fille sauvage est à mon avis un chef-d'œuvre d'une philosophie douloureuse, mais grandiose. Et j'ai toujours été navré que cette œuvre n'ait pas conquis la foule. On dit M. de Curel indifférent à cette conquête. Je considère qu'il a tort. Le théâtre a une facture précise, et c'est un grand dommage pour l'art dramatique qu'un homme comme Curel se dérobe à cette facture. Il agit comme un prédicateur qui choisirait une chapelle au lieu d'une église et prêcherait en latin pour persuader, éduquer et entraîner ses ouailles. Il y a dans l'œuvre de Curel une remarquable envolée dramatique, mais le raisonnement philosophique intervient, des dialogues explicatifs, des dissertations éteignent l'action, et le public lassé détourne son attention et se désintéresse. L'œuvre ne l'atteint pas, et l'enseignement est perdu pour des milliers d'individus. La facilité qu'offre le théâtre d'influencer le public, tant par la sentimentalité éveillée par l'intrigue même que par les raisonnements plus ou moins subtils tenus par les personnages de la pièce, a inquiété les esprits chagrins, bien faussement d'ailleurs. Pour des raisons analogues, bien des personnes n'osent permettre à des jeunes filles d'aller au théâtre, parler, alors qu'on est infiniment moins sévère pour l'opéra et l'opéra comique. Un jour, devant une charmante dame du faubourg Saint-Germain, j'exprimais mon étonnement de voir que les jeunes filles n'assistaient jamais aux représentations de la dame aux camélias. « Oh ! S'écria-t-elle, ma fille connaît la pièce !»« Comment cela, madame ? Elle l'a lue ?»« Oh non ! » fit-elle un peu choquée, « elle a entendu la Traviata. » « Mais il me semble, répliquai-je, que c'est tout pareil. »« Oh non !» dit la dame. « La musique corrige le réalisme de la pièce. Ma fille ne se rendait pas compte que ce qu'elle entendait chanter pouvait se parler. » Je restai stupéfaite d'une telle réponse et tournai le dos à mon interlocutrice. J'ai entendu souvent dire que les choses de la religion ne devaient pas être mises à la scène. Oh, la douce erreur! Et quel grand bonheur que l'esprit large ne se soit pas trouvé arrêté par ses craintifs. Le théâtre est le reflet involontaire des idées de la foule. Il marche sans cesse à la conquête du beau. Parfois il va trop vite, il a trop espéré des esprits et des cœurs. L'heure n'étant pas venue, il faut rétrograder. Il en fut ainsi pour la question religieuse au théâtre il y a 20 ans. Bien des essais cependant avaient été tentés en France. Une force supérieure retardait la marche des événements. Il fallait laisser passer le flot. Mais, que les esprits se rassurent, tout ce qui a été fait depuis ces 20 ans comme œuvre religieuse est de toute beauté, de toute grandeur, de toute foi. Il y a quelques années, Edmond Haraucourt est venu me lire sa passion. Je fus saisi d'admiration. « Il faut jouer cela, m'écriai-je. je veux que cette œuvre arrive au public. Mais que de luttes, que de rebuffades, que de puériles raisons et de lâches attaques. Cette année-là, il nous fut impossible de jouer la pièce d'une façon complète. L'auteur et moi nous tînmes bon. Quand même, est ma devise. Je voulus quand même faire partager au public mon émotion admirative et passionnée devant cette œuvre. Il y eut des péripéties tour à tour comiques et énervantes. Nous finîmes par organiser une lecture dans un entr'acte musical de concert pas de loup au Cirque d'hiver. La salle était bondée, mais d'un méchant esprit. Les snobs s'étaient donné rendez-vous pour mettre fin de suite à un tel scandale. Des amis bienveillants étaient venus me supplier de ne pas donner suite à mon idée. « Vous n'irez pas jusqu'au bout, » disait-il. « Oh, je vous réponds que nous lirons jusqu'au dernier vers la passion de Haraucourt. » Et c'est devant une salle glaciale, devant des figures fermées, que je commençai la lecture de cette œuvre de foi et de beauté. Des chuchotements malveillants soulignaient les vers les plus beaux. Je bénéficiais de ma qualité de femme et ne fus pas interrompu. Mais quand ce fut le tour de l'artiste qui lisait les vers dits par Jésus, ce fut un déchaînement de miaulements, cris et rugissements. Nous continuâmes imperturbablement à échanger les répliques. Enfin, dans un silence momentané, un gouailleur se mit à crier « Music, music !» et le public, las de hurler, se mit à rire, comprenant soudain que le rire est plus décourageant pour l'artiste que les sifflets. Un instant, je crus la partie perdue, lorsque Edmond Haraucourt bondit de sa place et s'élança en criant la figure blanche de colère, les dents serrées. « Vous êtes venu sachant qu'on lisait une pièce en vers, ayant pour titre la passion. Vous avez payé très cher pour cela. Vous entendrez la pièce ou vous partirez. » Et, me baisant la main, « Merci, madame, merci. » L'effet fut foudroyant. Le public, bridé par cette logique, dompté par cette foi, se tut et écouta sans manifester. Les sorts étaient pris. Il fut beaucoup parlé de cette tentative audacieuse. On argumenta contre cette tendance nouvelle, mais l'œuvre était belle et puissante, un souffle de grandeur et de foi planait au-dessus d'elle. La victoire était restée au vaincu. 3 ans après, la passion fut représentée sur un théâtre avec décors, figurations, costumes, et en même temps s'élançait triomphante, glorieuse, ailée, la Samaritaine d'Edmond Rostand, évangile en 3 tableaux en vers. Le jour de la première représentation de la Samaritaine est un jour d'inoubliable émotion. L'amour chrétien emplissait la salle d'une joie infiniment pure. Les larmes coulaient, bienfaisantes, je me sentais transporté dans l'au-delà, car je disais les belles paroles, et les cœurs battaient dans mon cœur. Je pleurais de ces larmes sans sel, sans amertume, de ces larmes pures qui lavent, emportent et noient à jamais les scories de nos âmes, de nos vies trop longues pour le mal qu'on fait, trop courtes pour le bien qu'on voudrait faire. Le public transporté, illuminé, soulignait tous les vers. Catulle Mendès, debout, poussait des cris d'enthousiasme. Ce jour-là fut pour moi en tout, car s'il m'avait rejeté pour un instant dans les souvenirs de ma petite enfance, alors que mystique et ignorante je délirais pour le petit Jésus, il m'avait plus que jamais démontré la puissante action des œuvres littéraires représenté dans notre temple, le théâtre. Les jours suivants, je reçus lettre sur lettre, et voici un passage de l'une d'elles, écrite par un prêtre. « Madame, j'assistais avant-hier à votre représentation de la Samaritaine. Je ne vous cacherai pas, madame, que j'y étais allée en très mauvaise disposition. Je voulais entendre l'œuvre non encore parue en librairie, pressée que j'étais, d'écrire contre M. Rostand une violente apostrophe, car je déplorais cette tentative d'introniser la religion dans le théâtre. Je suis revenu absolument converti par votre propagande, madame, car près de moi se trouvait un pauvre être à l'âme inquiète. Dans le cours de la représentation, il ne put s'empêcher de me parler et me fit part de ses doutes, de ses indécisions, et finalement il s'écria joyeux et transfiguré qu'il se sentait meilleur et rénové. Je suis heureux, madame, qu'il ne me reste de tous mes soupçons agressifs contre vous et M. Rostand qu'un souvenir ému et reconnaissant dont je vous prie de bien vouloir accepter l'hommage. Ces quelques lignes m'ont rendue bien heureuse, et mon âme s'est reposée, quiète et charmée, pendant toutes les représentations de la Samaritaine. C'est Dieu lui-même qui inspirait le souffle de Rostand. Cette œuvre est comme la victoire de Samothrace, qui porte dans ses ailes déployées et dans l'envolée fougueuse de sa tunique l'immortel cri de gloire des siècles passés vers les siècles à venir. Notre art. Son temple est l'univers, avec ses mers, ses montagnes, ses forêts, ses villes, ses campagnes et ses fleuves, ses ciels bleus ou gris, ses astres, ses étoiles et ses planètes. Son orchestre, les souffles féroces et doux des quatre vents, les grondements du tonnerre, les grincements des galets, les rugissements des fauves, le tri des oiseaux, le ululement des bêtes de nuit, le chant d'amour des amants, le râle des mourants, la plainte des humains, la prière des croyants, l'éclat de rire des heureux, le rire perlé des innocents. Son idéal, c'est d'obtenir la gloire. Sa gloire est d'atteindre son idéal. Notre art est le plus beau, le plus noble, le plus évocateur, car il est la synthèse de tous les arts. La sculpture, la peinture, la littérature, l'élocution, l'architecture, la musique sont ses outils naturels. Mais s'il a besoin de toutes ces manifestations artistiques pour être lui-même un, il faut à son prêtre, à sa prêtresse, une vertu indispensable, la foi. C'est par la foi que l'acteur le plus mal servi par la nature domptera un public prévenu. C'est par la foi qu'une artiste imposera au public une nouvelle incarnation d'un personnage créé jadis par une artiste géniale, lequel personnage adopté par des générations successives est devenu la tradition. La tradition, à laquelle on ne doit pas toucher, l'horrible, la stupide tradition, la hache avec laquelle on essaie de couper les ailerons des néophytes. La tradition, mot solennel, prononcé par des voix solennelles. Mots qui glacent les personnalités naissantes. Rien n'est plus contraire à la vérité que la tradition. Rien n'est plus nuisible à l'éclosion de la pensée. Il ne peut pas y avoir de tradition, car il est impossible qu'un être blond et racé pense et agisse comme un être brun et vulgaire. Et cependant, tous deux pourront se trouver dans une situation identique, dramatique ou comique, dans laquelle les mêmes mots s'imposeront. Mais ces mots qui seront les mêmes formeront des phrases élégantes ou grossières, hautaines ou brutales. Ces phrases seront dites par des voix timbrées ou cassées, exprimées par des visages réguliers ou ravagés, avec le geste noble ou le geste bas. Eh bien, sans pousser à l'extrême, ainsi que je le fais, l'écart entre la créatrice d'un rôle qui en fait la tradition et l'artiste nouvelle qui veut interpréter le personnage déjà créé, il y a un écart, ne fût-ce qu'un écart de cerveau, et le cerveau étant notre agent supérieur, cela suffit pour nous rendre impossible la manifestation d'une phrase traditionnelle. Aussi est-il fort rare que les artistes soulevés par la foi acceptent une tradition. Il est vrai de dire que l'art dramatique a subi les transitions les plus diverses. Du temps des Grecs et des Romains, l'artiste lui-même n'était rien. Qu'il fût beau ou laid, élégant ou ordinaire, qu'importait. Il était le héros de la poésie. Il servait de porte-voix. Plus tard, il fut le pauvre diable, servant dans les comédies religieuses, qui se donnait dans les églises et rapportait beaucoup au culte. Il représentait la passion, était fort peu payé, fort malmené, mais on les confessait gratis. Puis ils furent le bouffon, la petite troupe bohème, invitée par les seigneurs, chassée par les paysans, crevant de faim dans les fossés durcis par le froid, crevant de soif dans les fossés taris par le soleil. Mais rien ne peut rebuter un épris de notre art, ni les observations tendres et prévoyantes des mères, ni le coupe-vivre des pères, ni la froideur des relations amies, ni l'éloignement hautain de la plèbe imbécile et richement vêtue, ni les premiers sarcasmes, ni les échecs, rien, rien. La misère nous laisse plus frêle, plus pâle, plus hamletesque. Elle creuse la voix et donne du lointain aux gestes démusclés. Qu'importe la misère, qu'importe tout pour l'énamourer de notre art? Est-ce qu'il ne porte pas en lui toutes les joies, toutes les beautés? Ses murs sont de carton, ses montagnes peintes sur toile, Ces ciels ont leurs nuits éclairées par 1000 petites étoiles en papier, suspendues au bout d'un fil et remuant à tous les souffles. Ces tourelles imprenables sont en carton-pâte, et la hache qui les entame, ou le boulet qui les troue, sont jouets d'enfant. Mais la main qui les tient, ces jouets, est main d'homme, électrisée par de beaux vers. Le cœur qui s'élance à l'assaut bat sa charge, aussi rude, aussi précipitée que s'il s'agissait de courir sus à l'ennemi véritable. Et pour le public qui est là, vibrant, anxieux, nerveux et transporté, la tourelle est en pierre de taille, le ciel est le ciel noir, éclairé de ses milliers de clous d'or. Et c'est la foi du comédien qui, tendant le flambeau confié par le poète, éclaire tous ses cerveaux, toutes ses âmes, toutes ses sensibilités. La foi est tellement nécessaire à notre art qu'elle finit par s'identifier en nous, nous prendre nous-mêmes. Et voici un joli souvenir qui me revient et que je ne veux pas laisser passer. Dans une petite ville près de Lille, deux pauvres vieux artistes vivaient retirés, loin de tout. Ils vivotaient tous deux de leur maigre pension de la Société des artistes dramatiques. 1 000 000 francs peut-être à eux deux. Étaient-ils mariés? Ne l'étaient-ils pas? Nul n'eût pu le dire. La femme, une confidente de tragédie, avait gardé un masque de beauté. Les lignes régulières de son visage donnaient de la chasteté à la blancheur de ses plats bandeaux. Lui, vieux comique de province, avait le masque grimaçant et vivace. Il vivait heureux, paraît-il, se remémorant les joies, les frayeurs, les ivresses d'antan. La veille de Noël, pendant qu'ils se promenaient dans le petit jardinet qui faisait leur joie, deux mauvais drôles s'introduisirent dans l'étroit logis et emportèrent toutes leurs économies. Ils se regardèrent, émus et découragés, en découvrant leur infortune. Mais devant toucher le 26 décembre leur petite rente, ils résolurent d'attendre en se privant. Car les pauvres comédiens qui n'avaient jamais dû un sol dans le pays n'auraient pas trouvé un morceau de pain gratis, ils le savaient. Le garde-manger visité, ils constatèrent qu'il restait un peu de veau, une boîte de sardines, du fromage et du pain. La cave, représentée par une vieille caisse, contenait encore une bouteille de vin blanc, commencée, et une bouteille de bière. Le cellier les laissa tristes et confondus. Pas une brindille de bois, pas un petit caillou de charbon. Il faisait si froid, si froid. Les portes mal jointes et les carreaux cassés laissaient siffler le vent. Les pauvres vieux s'enfuirent vers la petite pièce qui précédait la chambre à coucher et servait de salle à manger et de salon. Le feu somnolait sur des morceaux de charbon grisonnant. Ils approchèrent leurs chaises tout près, sans rien dire, l'air triste, les yeux perdus dans l'avenir. Avant de se mettre au lit, ils couvrirent avec d'infinies précautions le feu mourant. Le matin les trouva devant la cheminée. La neige tombait à lourds flocons, tassés et lourds. La journée passée, les maigres repas absorbés, les deux pauvres s'approchèrent plus près encore, leurs chaises se touchant, la main dans la main, les pieds étendus vers le tiède petit foyer. Ils parlaient des succès d'antan, et ils papotaient sur celui-ci, mort, sur celle-là, disparu. « Te souviens-tu, disait-elle enfin, de la salve d'applaudissements qui accueillit mon entrée quand je vins annoncer à César que Cléopâtre voulait le voir, ne fût-ce qu'une minute. « Oui, reprit-il, se rapprochant d'elle. Tu avais un pagne brodé d'or et une écharpe verte. » Ils se rapprochèrent encore. Lui, pâle et raidi par le froid, regardait le foyer étoilé, disant « Tu dis que ça chauffe, je ne sens pas, mais je crois. » Ils parlèrent jusqu'au matin, s'égayant au récit de leurs anciennes aventures, chevrotant les cantiques de Noël, riant doucement, heureux enfin de vivre encore, que tant d'autres avaient disparu, et d'avoir encore un peu chaud quand tant d'autres avaient froid. Quand le jour pénétra dans la chambre, ils s'aperçurent que le foyer noir et glacé était mort depuis longtemps, sans doute. Mais les paillons d'or, échappés du pagne égyptien, s'étaient accrochés aux tisons noircis et les avaient réchauffés comme un feu de théâtre par la suggestion de la foi. Il ne faudrait pourtant pas confondre la foi avec la suffisance, car il est, hélas, dans notre art surtout, une phalange de comédiens et comédiennes surnommés très drôlement les Matuvus, qui ne doutent de rien. Ils vont, tels des papillons brisant leurs antennes, sur les vitres fermées, ou brûlant leurs ailes aux bougies flambantes, mais cela je les laisse. Ils ne se doutent pas de la beauté de notre art, ni de la mission de ses apôtres. Il est dans la carrière théâtrale, comme dans toutes les carrières, des ratés, des fantoches, des surprenants, qui déplacent trop d'air, parlent trop haut, se campent devant les foules, s'érigent en incompris et s'effondrent en victimes dans les bols d'absinthe. Le public les confond trop souvent avec les vrais artistes. Mais que faire à cela? Nous, les artistes, nous suivons notre route si ardue, si pleine d'embûches et si embellie de fleurs. Notre mission est d'éveiller les cerveaux, d'émouvoir les cœurs. Les poètes et les dramaturges nous confient l'essence d'eux-mêmes. Ils déposent entre nos mains, trembleurs et confiants pourtant, la quintessence de leur cerveau, la chair de leur chair, ce qu'ils ont rêvé de dire depuis longtemps, ce qu'ils ont épuré avec soin, la pensée généreuse qu'ils veulent semer dans le cœur des foules, la leçon qu'ils veulent infliger à la société sous une forme profitable pour elle et sans froissement direct. Et sous le masque du rire, ils éveillent dans le comique d'une situation la création d'une loi nouvelle contre tel ou tel abus, la nécessité du halte-là contre tel ou tel léonisme. Et c'est nous les avocats de ces causes. C'est nous qui, seuls avec le public, devons en un instant lui communiquer la foi ardente de l'auteur. C'est nous qui devons d'une main arracher l'ivraie, de l'autre semer le bon grain. Ah, quelle joie intense pénètre l'artiste quand il sent là, frémissante, toute une foule suspendue à ses lèvres, à son regard, et qu'il sait là, derrière la coulisse, un être dont le cœur bat à se rompre, un être qui a pris 2 ans de sa vie, a élaboré souvent un chef-d'œuvre, qui a raturé, repris, rejeté des mots, des phrases, des vers, un être qui joue une partie effroyable, son avenir, parfois le pain d'être chéri, sa gloire, son tout. Et dans cette partie qui se joue là, où tout son être est un enjeu, ce n'est pas lui qui tient les dés. Il a tout remis entre de frêles mains de femme ou en de brutales mains masculines. Oh, ce cœur qui bat derrière nous, nous le sentons dans notre cœur, nous l'entendons dans nos oreilles. Et quand enfin le public jette son cri de vaincu dans l'écroulement de ses bravos, nous avons l'infinie jouissance du martyr au paroxysme de sa douleur, de l'amant dans la réalisation de son rêve. Cette sensation, l'auteur ne l'a pas, mais elle est si fugitive qu'il ne peut nous l'envier. En effet, son œuvre, lancée par nous, va s'élevant plus haut, planant dans l'infini du temps. Mais nous, notre œuvre terminée, la gloire ne dépasse pas notre vie, et souvent elle meurt avant nous. Que d'artistes illustres j'ai vu se drapant dans les plis d'une gloire morte, attendrissants et grotesques, dans leur vouloir d'être encore, alors qu'ils n'étaient plus. Mais notre mission est assez belle, et notre part assez copieuse. Nous n'avons rien à réclamer. Quand j'étais jeune, je me révoltais contre les injurieuses calomnies jetées à notre art. Maintenant, je regarde sans colère, mais avec une profonde pitié, ceux-là qui ne savent ou ne veulent pas savoir. Et puis, qu'est-ce que cela me fait que des gens pensent ou ne pensent pas ceci ou cela? Dans la vie, on aime un noyau d'êtres, qui sont notre univers. Dans l'art, on travaille pour un noyau de cerveau qui sont votre juge, votre suprême arbitre. Ah, que je voudrais savoir, quand on meurt, pour qui on meurt? Le comédien ne doit jamais, jamais travailler pour la foule, car rien n'est plus aisé à obtenir que les succès de la foule. Il ne doit jamais se contenter même si le succès a couronné ses efforts, car il est toujours perfectible, alors même qu'il semble être parfait. J'ai un grand mépris pour l'art de ces comédiens qui, ayant établi un personnage, ne changent jamais aucune pose, aucune inflexion, aucune expression. D'aucuns les admirent, moi je nie leur personnalité. Ce sont de bons ouvriers ayant sagement travaillé et reproduisant chaque jour, à chaque heure semblable, leur semblable besogne. Ceci n'est pas de l'art, c'est du métier. Le public confond souvent l'un et l'autre. Que de comédiens et comédiennes j'ai entendu vanter, n'ayant cependant que cette souvenance des répétitions pendant lesquelles on leur a seriné la phrase, l'inflexion, indiqué la passade, la pause, le temps, le rythme du vers, la terminaison de la phrase, et enfin l'endroit où il doit se faire l'effet. Car il est des artistes qui ne visent qu'à l'effet. c'est-à-dire aux bravos de la foule. Et c'est le plus souvent la claque, l'odieuse claque, qui donne le signal de la joie intense, débordante du public. C'est la claque, la bien nommée, car elle est un véritable soufflet à l'art, et à l'artiste qui donne le signal des applaudissements spontanés, comme dit Sardou. Eh bien, je me révolte contre cet art guindé, appris. L'art est l'expression des sentiments divers, déployés par l'auteur dans le courant de son œuvre. Il faut pleurer de vraies larmes, souffrir de vraies souffrances, rire du vrai rire qui se communique. Vous ne pouvez mourir vraiment chaque soir, me direz-vous. Ceci est fort juste. Mais la naissance et la mort sont des faits qui ne se produisent qu'une fois dans la vie de chaque être humain, tandis que les souffrances et les joies se reproduisent à l'infini dans l'existence de tous. Diderot prétend que l'artiste ne doit rien sentir. C'est une erreur, et je m'inscris en faux contre Diderot. Cette opinion pouvait être juste du temps des Grecs, alors que les acteurs jouaient dans les théâtres contenant 20 000 ou 30 000 spectateurs, alors qu'ils se coiffaient de masques, se haussaient de 6 pouces, et s'allongeaient les bras de gantelets qui laissaient aux membres les proportions nécessaires à la beauté de l'esthétique, alors qu'ils enflaient la voix outre mesure pour être entendus, et que le rythme était la préoccupation volontaire de leur diction. Nos acteurs, à cette époque, ne pourraient donc apporter aucune émotion personnelle. Ils étaient, ainsi que je l'ai dit plus haut, le porte-voix du poète. C'est le cœur qui était chargé d'exprimer les sentiments différents qui agitaient les personnages. Le tragédien était donc un mannequin vivant et parlant, rien d'autre. Le cœur était son âme visible pour le public. Ces cœurs avaient une telle importance, surtout dans les tragédies d'Eschyle, qu'après une représentation des Euménides, le cœur des Furies ayant produit une terrifiante épouvante au public, les magistrats firent passer une loi réduisant à 15 pour la tragédie, à 24 pour la comédie, le nombre des choristes. Mais notre compréhension du théâtre, maintenant, ne nous permet pas l'abstention des sentiments et des émotions personnelles. Nous devons vivre nos personnages, et rien n'est plus passionnant que de se quitter soi-même pour un autre être. Que de fois je suis arrivée au théâtre, fatiguée, souffrante, découragée. Puis, peu à peu, je me suis reprise à la vie de ce personnage que j'allais représenter. Et tout en arrangeant mon visage, je le changeais par un tout petit rien, perceptible pour moi, mais presque invisible pour le public. Le personnage que je devais représenter étant une femme violente et fatale, je rapprochais légèrement mes sourcils, je les creusais vers le milieu et lançais leurs pointes vers la tempe en les laissant tomber. J'effaçais l'arc de la lèvre supérieure pour la laisser droite et implacable, et ma figure prenait une froideur mystérieuse. Si tout au contraire, mon personnage, comme la reine de Ruy Blas, était une pauvre victime cherchant le pourquoi de la vie, j'effaçais mes propres sourcils sous le blanc et je dessinais très haut un sourcil questionneur, inquiet, ressemblant assez à celui de Pierrot. Je rapetissais les coins de ma bouche à laquelle je donnais une lèvre inférieure en cerise, et cela fait, mon visage m'amusait par sa naïveté béate. Et peu à peu, je m'identifiais à mon personnage. Je l'habillais avec soin. Je reléguais ma Sarah Bernard dans un coin. Je la faisais spectatrice de mon nouveau moi. Et j'entrais en scène, prête à souffrir, à pleurer, à rire, à aimer, ignorant ce que le moi de moi faisait là-haut, dans ma loge. Je me souviens que jouant un jour Postumia, une vieille aveugle de 80 ans, dans Rome vaincue, je fus pris 5 minutes avant d'entrer en scène de douleur telle que je me roulais sanglotante dans la coulisse. M. Perrin, administrateur de la Comédie-Française, Georges Clairin, le peintre, et Paul de Rémusat étaient présents, épouvantés et demandant un médecin. Tout à coup, j'entends dans une accalmie de douleur le verre qui précède mon entrée. Je bondis, je rajuste ma perruque de cheveux blancs, et avant qu'ils soient tous trois revenus de leur surprise, j'écarte le rideau de la salle du jugement. Ma figure bouleversée par la souffrance, mon front barré par la volonté de ne plus souffrir, tout mon être trépidant sous la morsure des douleurs rejetées hors de moi, firent une telle sensation sur le public qu'il trépigna d'enthousiasme à mon apparition. Je dis ma scène, je hurlai ma prière, mes mains crispées, chercher l'appui que ne voyaient pas mes yeux d'aveugle. Je sortis de la scène soulevée par les acclamations de la salle, et je retrouvai à la porte mes douleurs qui m'attendaient et s'agrippèrent à moi si violemment que je perdis connaissance. Eh bien, j'ai la ferme conviction que tous les acteurs et actrices doivent non seulement se transformer, mais se dédoubler chaque jour. Ils doivent oublier leurs tracas personnels, leurs ennuis, leurs souffrances, pour identifier en eux les tracas, les ennuis du personnage qu'ils vont représenter. Et tous ceux qui ne peuvent pas cela n'ont pas besoin de s'illusionner. Ils ne seront jamais l'artiste qui emporte la foule avec lui. L'artiste qui la dompte et qui l'attire, grognante mais vaincue, à ses pieds. Il faut donner son cœur, sa chair, son sang à cette foule impersonnelle et rageuse qui résiste toujours de prime abord et s'abandonne ensuite avec une grâce et une indulgence sans bornes. Ah, tous ces gens assis, attentifs, sont à eux tous celui qui vient voir enfin manger le dompteur. Et tous les publics de tous les pays sont le même quand ils se trouvent devant une personnalité marquante. Il faut, dès le début de sa carrière, que l'artiste comédien veuille être quelqu'un. Mais que les néophytes ne se leurrent pas. Rien n'est plus difficile que de le rester, ce quelqu'un. Dans notre art, la célébrité peut s'acquérir en une heure, mais le plus souvent, trop souvent, ce n'est que l'engouement d'une salle pour une tournure originale, une coiffure non vue, un geste osé ou la folie d'une coterie contre un artiste en faveur d'un autre. Ah, qu'ils sont coupables, sots et méchants, ceux-là qui éveillent chez de pauvres jeunes êtres l'orgueil démesuré du parvenu à rien du tout. Combien, dans ma si longue carrière, n'ai-je pas vu de ces nullités portées sur le pavois de la gloire par des sots qui ne font pas 10 pas, sans se lasser de hurler sans écho, et lâche cruellement l'élu qui se brise les reins. Le succès durable ne peut s'obtenir que par le travail et l'obstination constante de la pensée vers l'idéal. Et remarquez qu'il n'est pas nécessaire que cet idéal soit toujours le même. Oh, non, certes, il a le droit, il a même le devoir de changer les évolutions constantes de la société, de la politique, des mœurs, et même des coutumes ne permettant pas un idéal immuable. Mais quelle que soit la pièce qui se représente, quelle que soit l'action, quel que soit le lieu où elle se passe, il y a toujours un idéal, et c'est vers lui qu'il faut aller d'abord. Pour créer un personnage, si abject qu'il puisse être, il faut chercher la flamme qui l'éclaire. Le grand tort de la plupart des comédiens est que dans la première vision évoquée par la lecture d'une pièce, ils voient le personnage qui leur est confié, habillé, marchant, vivant. Ce n'est pas un artiste qui m'a fait cette confidence, c'est 30, 40 comédiens et comédiennes. C'est une faute si grave qu'il est parfois difficile de la réparer. Le comédien, entendant un auteur lire une pièce dans laquelle il doit représenter un personnage, ne devrait jamais connaître le rôle qui lui est destiné à l'avance, car il ne prête en général qu'une médiocre attention à tout ce qui n'est pas son rôle, et la pensée de l'auteur lui échappe. Il oublie trop qu'il n'est pas le clavier à lui tout seul, mais qu'il fait partie d'une harmonie générale. Pour créer avec succès un personnage, il faut en faire son ami de toute heure, son ombre de toute minute. Il faut lui donner une âme, lui faire un cœur, des poumons, un cerveau, des bras, des jambes. Laquelle âme sera trouble ou limpide? Lequel cœur battra avec calme ou fureur? Lesquels poumons seront la respiration ou le râle? Lequel cerveau sera naïf, grandiose ou rusé? Lesquels bras seront des bras de grâce, de force ou d'abandon? Lesquelles jambes marcheront avec noblesse, traîneront avec nonchalance ou frapperont du talon avec orgueil? Car tout doit être composition dans la création d'un personnage. Le port de la tête, l'autorité du geste, la façon de s'asseoir, de se lever, d'entrer, de sortir, tout cela est nécessaire pour évoquer dans l'esprit du public la vivante personnification du rêve de l'auteur. Viennent ensuite la coiffure, le costume et la petite retouche du visage. Il est souvent difficile de rejeter sa propre personnalité matérielle, mais il faut alors s'en faire un appoint et pas une embûche. Il est certain que Coquelin, à moins d'être à faune, n'eût pu détimbrer sa voix reconnaissable entre mille. Salvini, quel que fût son génie, n'aurait jamais pu, à cause de sa colossale stature, jouer un nain. Il eût été impossible à Réjeanne, la délicieuse artiste, de jouer Ophélie, à Mounet Sully d'interpréter Figaro, à moi de jouer la nourrice dans Les Remplaçantes de Brieux. Mais, sauf quelques rares exceptions, les artistes doivent chercher à interpréter tous les caractères. Il ne faut pas se laisser cantonner dans un emploi. Un homme jeune et bien fait de sa personne doit pouvoir, s'il est l'amoureux, le leader de la compagnie, jouer à sa guise un comique, un vieillard, un paysan. Un tragédien doit jouer souvent, très souvent, la comédie moderne, même si son succès est moins grand quand il essaie ce genre. Il y gagnera de la variété dans les inflexions, il modifiera ce qu'il y a toujours de trop solennel dans l'interprétation des tragédies classiques. La tragédienne gagnera dans le modernisme, jointe à son habitude du rythme classique, la grâce des Tanagra. Toute tragédienne qui ne joue que de la tragédie prend le pas lourd, l'élocution lente et pensive, le geste solennel. Il en est de même pour le comique. Il doit se lancer tête perdue, non dans la tragédie, si son nez le lui défend, mais dans le drame pathétique. Il faut que celui qui dilate la rate par le rire mouille parfois les paupières par les larmes. Mais la France, pays des arts et des idées généreuses, est aussi le pays de la bourgeoisie surabondante. Et le bourgeois classe tout, cantonne tout, s'étant lui-même classé et cantonné volontairement dans l'étroite coquille du bourgeois. Il veut que certains peintres fassent certains tableaux, que ces tableaux soient de certaines grandeurs. Il n'admet pas que le sculpteur soit peintre, ni le peintre musicien, ni le musicien architecte, ni l'auteur acteur, ni l'acteur écrivain. Il n'aurait jamais admis Eschyle, Euripide, Molière, Shakespeare, comédiens et poètes, Aristodème, ambassadeurs et acteurs, Léonard de Vinci, Michel-Ange, politiciens, peintres et sculpteurs. Il rit encore du violon, d'Ingres, et impose aujourd'hui qu'il ait la majorité son veto aux comédiens. Il y a le jeune premier, l'amoureux,
le grand
premier rôle, le comique, le père noble, le troisième rôle, le tragédien, le confident. De même pour les comédiennes qui ont en plus la coquette et l'ingénue. On ne saurait trop s'insurger contre cet état de choses, car l'habitude de jouer tel emploi retire à l'artiste doué et intelligent la nécessité de se perfectionner. Il se satisfait tout de suite en se glissant dans le même personnage qu'il a l'habitude de représenter. Le Conservatoire national fabrique des marionnettes étiquetées, et c'est un grand malheur qu'on ne veuille pas remanier de fond en comble son mode d'étudier. Mais ce conservatoire absolument nécessaire, indispensable, est encrassé de bourgeoisisme. Je comprends que des questions plus graves occupent nos ministres. Cependant, le théâtre ne doit pas les laisser indifférents, car il est le tremplin de toutes les luttes intellectuelles qui se sont souvent terminées en lutte révolutionnaire. Il est l'arc immense sur lequel le génie des poètes lance des flèches meurtrières et bienfaisantes à la société, à la morale. Il a servi de chair pour la prédication des plus grandes causes, des plus nobles aspirations. Le théâtre propage les idées nouvelles. Il éveille le patriotisme aboli, dévoile les turpitudes et les abus par le sarcasme, éduque les ignorants sans qu'ils s'en doutent, aiguillonne les courages timides, soutient la foi, donne l'espérance, enseigne la charité. Le rôle du comédien, si souvent décrié, n'apparaît pas petit à la lumière de cet apostolat. Il serait juste qu'un enseignement rénové apporte à celui dont la voix se pare des vertus des poètes et des dramaturges les moyens de la faire entendre sans défaillance et sans défaut. Appendice. Conseil pour le maquillage. Une des grandes difficultés qui se présentent devant les débutants, c'est le maquillage. Il y a là, certes, un gros danger. L'aspect de l'artiste considéré de la salle est bien pour quelque chose dans son succès. Un visage fort joli à la ville ou en soirée peut être plat et banal à la scène, et tout à fait insignifiant. Il peut même devenir ridicule sous l'effet de la rampe, qui change la forme des ombres du visage et en fait apparaître les volumes constitutifs sous un jour inattendu qui modifie parfois totalement le détail des traits, comme l'ensemble de la physionomie. L'acteur doit donc se voir de la salle et, sans se faire une tête, corriger dans un sens sculptural ce que son visage peut avoir d'imparfait. S'il a naturellement les traits forts et accentués, le nez trop proéminent, le front bossué, les pommettes trop saillantes ou le menton trop carré, il doit les adoucir légèrement sans cependant les affadir. Il faut les estomper. Le fond du teint, le rouge des joues et du pourtour de l'œil du côté du nez, le noir des yeux, viennent à la rescousse comme ils y viennent pour donner au visage plat l'accentuation qui lui fait défaut. Le visage plat aux petits yeux est à redouter particulièrement. Il peut se modifier par l'agrandissement des yeux obtenu grâce au crayon bleu ou marron qui allonge les paupières. Le maquillage des yeux et de la bouche change tout le dessin d'un visage. Le soin qu'on lui apporte doit donc l'emporter sur tout autre maquillage du visage, joues, lobes des oreilles, nez, etc. La connaissance de cet art ne s'obtient guère que par l'expérience, et j'ajouterai par une expérience personnelle. Chaque visage demande un maquillage spécial et son propriétaire n'apprend à utiliser ce qui lui convient qu'après de longs tâtonnements. Il y a cependant quelques principes généraux qu'on peut établir pour tous et il est du devoir de ceux qui les pratiquent de les communiquer aux néophytes. Le maquillage des hommes n'est pas le même que celui des femmes. Il peut être plus accentué alors que ce dernier doit viser, hors les cas spéciaux des têtes caractéristiques, à rappeler le visage de l'actrice d'un des types de la beauté féminine parfaite, le rôle de la femme étant bien plus que celui de l'homme de plaire au regard. Mais les femmes ne peuvent se maquiller toutes suivant les mêmes principes. Une brune ne peut faire son visage comme une blonde. Une actrice brune doit se farder à la poudre ocre ou safranée, mise sur un fond teint ocre, et très peu de rouge aux joues. Elle doit au contraire se mettre beaucoup de rouge aux oreilles et avoir soin de rendre invisible le léger duvet que possède une femme de 30 ans et au-delà autour des lèvres. Ce duvet, agréable à voir de près, prend à la lumière de la rampe un aspect sale qui dépare le plus joli visage. Un peu de blanc gras safrané au-dessus de la lèvre supérieure et aux commissures des lèvres et le mal se répare. Une femme brune doit toujours découvrir une partie de son front pour éclairer le visage. Elle ne doit pas mettre de noir autour des yeux, mais seulement allonger l'œil avec un crayon marron, jamais un crayon noir. Elle peut se rougir les lèvres le plus possible, surtout si elle a les dents blanches. Mais il ne faut pas se servir de rouge gras, cela amollit l'articulation. Il faut user de rouge liquide dans lequel on introduit très peu soit de vinaigre, soit de vernis, soit d'acétone. Il n'est pas à craindre que cela flétrisse les lèvres le jour. J'affirme que cela ne fait aucun mal et n'apporte aucun changement à la beauté d'une jolie bouche. Cette mixture a l'avantage de rester vivace sous l'humidité de la salive. Elle donne aux lèvres une consistance qui leur permet de frapper l'une sur l'autre et de doubler ainsi la consonance d'un mot. Pour les blondes, le fond de teint est moins foncé que pour les brunes. Le rouge plus abondant doit être plus vif, moins jaune. La poudre qui vaporise le tout est soit naturelle, soit Rachel. Les paupières doivent être faites soit au marron clair, soit, et de préférence, au bleu, qui rend plus sensible le bleu des prunelles. Le rouge mis au coin de l'œil agrandit celui-ci. Le rouge des joues doit monter très haut. Quant à la bouche des blondes, elle doit être plus claire, d'un rouge rose assez vif. Brunes ou blondes s'allongent les cils qui ombrent le regard avec du rimmel. Si elles tiennent à ce que cet allongement soit plus prononcé, elles emploient du cosmétique qui a sur le précédent l'avantage de ne pas brûler et faire larmoyer les yeux. L'intérieur des narines se farde de rouge. D'une manière générale, le maquillage est en rapport des dimensions du théâtre. Plus la salle est grande, plus le maquillage doit être accentué. Et cela se comprend. L'importance des traits de l'acteur se perd dans leur éloignement des spectateurs, qui les perçoivent avec peine. Il sied de leur rendre cette importance. La même observation peut être faite au sujet de l'intensité lumineuse qui noie les reliefs. plus la lumière est puissante et diffusée, plus ceux-ci peuvent être accusés. Un peu d'habileté acquise permet de modifier, accentuer ou diminuer assez facilement, sans intervention postiche. Par exemple, tel nez trop large ou trop fort se diminue et prend de l'élégance si on a la précaution d'étendre le rouge des joues jusque sur le nez, dont on laisse seulement la ligne médiane naturellement claire. La bouche se modifie du tout au tout. On la supprime complètement grâce au blanc, puis on la dessine à son gré grâce au rouge. Une bouche grande et mince devient une bouche en cerise, et des lèvres trop charnues s'amincissent et s'allongent. L'œil, le blanc de l'œil lui-même, s'agrandit. Je connais une actrice aux petits yeux, mais à l'arcade sourcilière très marquée et haute, qui se dessine au bleu de vrais yeux artificiels. Et la salle lui voit des yeux grands et beaux. Ces arrangements et ces accommodements n'ont pas seulement de raison d'être pour obvier aux imperfections naturelles ou compenser l'ampleur de la scène et de la salle et l'intensité de la lumière, mais encore pour répondre aux nécessités du rôle interprété. Le physique du comédien ou de la comédienne ne correspond pas toujours parfaitement au caractère du personnage qu'il représente. Une légère retouche doit intervenir, délicate et prudente. Il faut bien connaître la psychologie du personnage et la pensée de l'auteur. Une vraie main pleine de tact intervient ensuite, allonge et alanguit l'œil ou le durcit et le cerne violemment, diminue et fait joliment fleurir la bouche ou la fend d'une manière implacable. Les mêmes nécessités peuvent amener la transformation totale de la physionomie et des modifications brutales de tous les traits. Une jeune fille peut apparaître sous l'aspect d'une femme de 80 ans. Une actrice d'âge plus que mûr parvient souvent à passer pour une jeune amoureuse. Mais ces transformations complètes conviennent mieux au maquillage masculin. La finesse des traits, le charme spécial à la femme souffrent plus de ces subterfuges qui deviennent vite trop apparents. De plus, l'homme a à sa disposition des postiches, barbe et moustache qui lui facilitent la tâche et lui permettent un accord souvent rapide avec le rôle à interpréter. À part le rouge des joues, dont l'emploi est féminin, le maquillage masculin procède des mêmes principes que le maquillage féminin. Il est plus soutenu, parfois plus marqué, mais ne demande pas autant d'habileté et d'expérience. Il faut le répéter encore, le rôle de l'homme n'est pas exclusivement de plaire. J'ajouterais volontiers que dans la plupart des pièces de théâtre modernes ou classiques, les rôles d'hommes ont presque toujours pour but, principal ou accessoire, de mettre en évidence cette vertu primordiale de la femme qui est de plaire toujours et partout. Conseil pour la voix. J'ai dit et répété que toutes les recettes de tous les professeurs de déclamation ou de maintien sont d'un bien léger secours pour l'artiste qui songe à la gloire. Toute la science du conservatoire ne sert de rien si le comédien n'a ni cerveau ni cœur. Il se tiendra en scène convenablement, il évoluera avec grâce, se fera entendre avec précision, sans doute, mais la faveur publique se détournera de lui après quelques applaudissements. Oubliez ce qu'on sait et vivre le rôle, avec de vraies larmes ou de vrais rires. Tenir enchaîné aux inflexions de sa propre émotion la respiration même de la foule attentive, voilà ce qu'il faut. Et cela ne s'enseigne pas. Je n'irai cependant pas jusqu'à dire qu'il est indifférent de bafouiller quoi qu'il arrive, que le public trouve ce genre de parler plus naturel et moderne. Il est au contraire nécessaire d'avoir une excellente articulation, et pour l'obtenir, bien des exercices ont été préconisés. Il en est de même pour la pose de la voix et le souffle, dont dépendent la parfaite audition du son et la modulation de la phrase. Mais ce que je veux affirmer encore une fois, c'est ceci. Lorsqu'il est en scène, l'artiste doit oublier qu'il sait articuler, respirer, etc. Il n'est plus Monsieur un tel qui incarne le roi Lear, ni Madame une telle qui joue Esther. Il est le roi Lear, ou Esther même. Tout son savoir doit être réfugié dans le subconscient, témoin vigilant et sûr, qui dirige l'action suivant des modalités préétablies, mais ne paraît pas et doit rester modeste et muet. La voix est émise par les cordes vocales, mais se trouve modifié par les résonances successives de la gorge même, de la bouche et du nez. Si la bouche et le nez n'interviennent pas ou n'interviennent que fort peu, la voix semble venir de la gorge. Si la bouche joue un rôle prépondérant, il semble que la voix vienne soit du palais, soit des dents. Enfin, pour le dernier cas, c'est par le nez que les sons paraissent émis. Or, il est incontestable que si la voix, après avoir frappé la voûte palatine, rebondit sur les dents, elle est plus fraîche, plus malléable, plus sonore. Elle ne vacille pas. Elle est plus facilement homogène et porte mieux. Elle est mieux posée. C'est ce qu'on appelle avoir la voix dans le masque. Il est compréhensible que cette pose de voix favorise la fraîcheur du timbre et en assure la perpétuité. La gorge voit son rôle réduit. Elle laisse simplement passer par son canal les sons émis par les cordes vocales. Elle ne se contracte pas, n'en altère par conséquent pas la pureté, et ne se contractant pas, elle ne se congestionne pas et n'entraîne pas la congestion des cordes vocales qui provoque elle-même l'enrouement. Tout l'effort des débutants doit donc tendre à maintenir leur voix placée dans le masque et à la contraindre à se placer ainsi au cas où il en serait autrement par nature. Il est à peu près impossible d'indiquer à cet effet des exercices infaillibles. La meilleure méthode est celle de l'exemple. L'élève étudie la forme que prennent les lèvres et les différents muscles apparents du visage et du cou lorsque le professeur émet un son. Il tente de reproduire le même son en conformant ses propres muscles et l'ouverture de sa bouche, d'une manière identique. Cependant, on peut conseiller aux débutants un mode de procédé qui amène naturellement une bonne pose de voix. Il s'agit de prendre une sorte de point d'appui sur un auditeur fictif placé à une certaine distance et de s'adresser à lui en émettant le son. Si ce point d'appui est suffisamment éloigné et si l'élève ne porte pas son attention sur le son lui-même, mais au contraire la fixe sur cet auditeur fictif qui doit entendre, gorge, bouche, mâchoire et lèvres font instinctivement le nécessaire en prenant la position qu'il faut. Les sons primaires émis par les cordes vocales sont les voyelles. Les consonnes sont des sons modifiés par les diverses parties de l'appareil buccal ou nasal. Elles n'ont guère d'influence sur la pose de la voix, quoique en somme, les nasales et les dentales facilitent l'ascension des sons vers le masque. Mais ce qui importe de surveiller, c'est la position de la voix lors de l'émission des voyelles. L'O et surtout LA laisse facilement le son dans la gorge, tandis que l'I l'amène sur les dents et les lèvres. On peut donc recommander l'exercice qui consiste à prononcer la voyelle I en faisant durer le son assez longtemps tout en surveillant bien la tenue et la régularité. Puis, peu à peu, sur le même souffle et en conservant la même émission et la même pose du son amené
sur les dents,
on change l'I en E, puis en U, en O et enfin en A. Il n'est, à mon sens, pas d'autres exercices plus utiles à la pose de la voix que ceux que je viens d'indiquer. Le problème du souffle suit de près celui de la pose de la voix. Il s'agit de savoir respirer, et c'est là peut-être le sens le plus difficile à acquérir. Les jeunes comédiens et comédiennes débutants, lorsqu'ils ont une longue période de mots à lancer au public, emplissent leurs poumons de tout l'air qu'ils peuvent contenir et, dès la première phrase, laissent échapper tout leur souffle. La nécessité de le remplacer les met dans l'obligation de hocter et ils finissent dans le plus pénible oral la tirade commencée avec ampleur. Les cordes vocales se gonflent, s'exaspèrent et peu à peu la voix s'enroue et parfois se voile pour toujours. Il faut appuyer la voix sur le souffle et celui-ci doit sortir léger, fluide, avec les mots. Tel un nageur prend une grande provision d'air pour plonger, tel l'acteur doit faire une grande provision d'air pour parler. Il n'est pas besoin d'user de subterfuges étranges ou ridicules, de se coucher par terre et de respirer avec un poids sur le ventre ou sur la poitrine, ou en ouvrant et fermant alternativement un parapluie suivant le rythme de la respiration. Ce sont là des trucs infaillibles de professeurs charlatans ou pour le moins originaux. Il suffit de se donner pour tâche de prononcer un certain nombre de vers sur le même souffle et d'augmenter progressivement ce nombre lorsqu'il aura été atteint sans fatigue. Le comédien arrive par ce moyen à être maître de son souffle et à pouvoir le mettre au service de la passion qui anime fatalement la déclamation. Il ne craint plus, s'il a le trac, de se trouver à court et briser une phrase ou même un mot pour reprendre une respiration tremblante. Et bien mieux, il en arrive à dompter ses nerfs, à maîtriser son cœur et par là à agir sur le terrible trac lui-même. Lorsque le débutant est sûr de sa voix et de son souffle, il peut alors songer à l'articulation, qui n'est que la précision des détails de la prononciation et du débit. Je me souviens encore des recommandations que me faisait mon parrain lorsque je me préparais à mon concours d'admission au conservatoire. Je serrais trop les dents, je n'ouvrais pas assez les O et je ne vibrais pas assez les R. Voici les recommandations destinées à remédier à ces défauts, paraît-il. Tous les matins, pendant une heure, sur les Do, Ré, Mi, faire l'exercice Te, De, De, pour arriver à vibrer. Avant le déjeuner, dire 40 fois un très gros rat dans un très gros trou pour ouvrir les R. Avant le dîner, 40 fois, combien c'est 6 saucissi? C'est 6 sous, c'est 6 saucissi. 6 sous, c'est 6 saucissi? 6 sous, ceci. 6 sous, cela. 6 sous, c'est 6 saucissi. Pour apprendre à ne pas siffler les S. Le soir, en se couchant, 20 fois. Didon, dina, dit-on, du dos, dindo, du dindon. Et 20 fois, le plus petit papa, petit pipi, petit popo, petit pupu. D'ouvrir la bouche en carré pour les D et la fermer en cul de poule pour les P. Il y a peut-être de meilleurs exercices que ceux de mon pauvre parrain, bien qu'ils n'aient pas été très mauvais. Ils étaient assez inoffensifs et sans beaucoup d'effet, mais très ridicules dans la bouche édentée de ma chère institutrice, Mademoiselle de Brabinder. Je veux dire celui-ci qu'a fait faire à ses élèves le grand artiste Lucien Guitry. Il faut tenir un crayon serré entre les dents et dire très vite et très distinctement la phrase suivante. « Roi paragarafaramus, quand vous désoriginaliserez-vous ? Je me désoriginaliserai quand le plus original des originaux se sera désoriginalisé. » Or, comme le plus original des originaux ne se désoriginalisera jamais, paragarafaramus ne se désoriginalisera jamais. Voici une phrase autre à dire dans les mêmes conditions. Petit pot de beurre, quand te des petits pots de beurre riseras-tu? Je me des petits pots de beurre riserai quand tous les petits pots de beurre se seront des petits pots de beurre risés. Et une autre. Petit grain d'orge, quand te des petits grains d'orge riseras-tu? Je me des petits grains d'orge riserai quand tous les petits grains d'orge se seront des petits grains d'orge risés. Voici aussi deux excellentes phrases anglaises à dire comme les précédentes. Elles ne s'adressent bien sûr qu'aux comédiens français, capables de jouer en anglais, et aux comédiens anglais eux-mêmes. La première est « Sister Susie is sewing shirts for soldiers. Sewing shirts for soldiers is all Sister Susie sews. The soldiers write home a pistols that they sleep on ceaseless them, the soft shirts for soldiers that Sister Susie sews. La seconde, she sells seashells on the seashore, and these shells she sells are seashells, I'm sure. Sans doute pourrait-on répéter infiniment des types d'exercices de ce genre. Tous ont quelque utilité et donnent à la prononciation une liberté qu'aucune difficulté ne vient plus entraver. Le débutant doit choisir celui qui contient les obstacles appropriés, S, R, P, B, T, D, etc. Lorsqu'il aura vaincu ses obstacles, et par là même corrigé ses défauts, il n'aura plus à se préoccuper d'autre chose que de l'expression à donner aux phrases de la modulation
des vers.
Il ne s'agit plus là d'un travail physique, et non plus de recettes à donner. Tout est interne, et pourtant doit se traduire à l'extérieur. Ici un mot éclatant à mettre en lumière, là un mot qui sombre dans les larmes. Il suffit d'approfondir la pensée de l'auteur, d'être sûr de la sienne propre, et l'on tient le fil d'Ariane, et pour le reste, vivre intensément la vie nouvelle que vous offre le poète avec ses joies et ses douleurs. Mais je crois avoir déjà dit mon sentiment à ce sujet, et ma carrière entière est le meilleur et dernier exemple que je puis donner dans ce petit livre. Ici se termine L'art du théâtre par Sarah Bernard.